Le topinambour, quand on pousse un peu la cuisson, il part un peu sur le sucré aussi. Il a des notes d'artichaut, mais un peu caramélisées. Donc c'est assez intéressant.
Je suis Émilie Lextari et vous écoutez Bouffon. Cette année a beau avoir été étrange et incertaine, nous voilà bien arrivés au mois de décembre. Et avec lui, c'est le retour de quelques petites choses immuables. Les calendriers de l'Avent près des caisses de supermarchés, les premières décorations de Noël en ville, les joues rosées et les topinambours sur les étals des maraîchers. Ces tubercules ont la particularité d'avoir une forme irrégulière et des couleurs pas exactement définissables, quelque part à la croisée du brun, du rouge et du jaune pâle, selon les stries. La variété que l'on retrouve le plus est celle du topinambour rouge, mais il existe aussi le violet de Rennes ou encore le rouge du Limousin. Depuis quelques années, le topinambour, longtemps légume oublié, revient sur le devant de la scène. Son histoire est celle d'une plante d'abord largement consommée par chez nous, avant d'être abandonnée au profit de la pomme de terre, mise en avant par l'agronome Antoine Parmentier. En deuxième partie d'épisode, je tends le micro à Noémie Lebossé, chef au bistrot Les Eaux de Mars, l'une de mes adresses préférées à Marseille. Mais avant ça, je me suis entretenue avec Éric Birlouez, ingénieur agronome, sociologue de l'alimentation et auteur de l'ouvrage « Petite et grande histoire des légumes ». Avec lui, nous allons voir en quoi la Seconde Guerre mondiale, la disette, le bétail et les risques de flatulence ont écorné la réputation des topinambours.
Le topinambour, c'est un tubercule, c'est-à-dire en fait, c'est une... Alors en termes botaniques, c'est un rhizome. Un rhizome, c'est une tige souterraine qui, dans le cas du topinambour, mais comme dans celui de la pomme de terre ou de la patate douce, est tubérisée. Tubérisée, ça veut dire que ça va grossir, c'est-à-dire que cette tige souterraine va accumuler des réserves de glucides, et donc ce qui va lui donner la forme de, importante. Donc on est loin de la tige que l'on connaît, on a la pomme de terre, on a la patate douce et on a le topinambour. Donc on parle de tubercule pour désigner donc un légume dont on va consommer la partie souterraine de la plante. Le topinambour, c'est une plante qui est intéressante parce que elle est de la même famille et même d'ailleurs du même genre que le tournesol. Alors tout le monde connaît bien sûr les magnifiques tournesols, notamment ceux immortalisés par Van Gogh. Eh bien, le topinambour, c'est une plante qui ressemble au tournesol, un peu moins grande, la fleur est plus petite, mais c'est vraiment une plante qui est très très proche du tournesol avec cette belle fleur jaune que tout le monde connaît.
D'accord, donc comme une fleur de tournesol avec sous terre du coup le tubercule que l'on connaît.
Exactement. Et cette plante, donc ce topinambour, n'est pas originaire du continent européen. C'est une plante qui est originaire, comme la pomme de terre, comme la patate douce, du continent américain. Mais dans le cas du topinambour, c'est un petit peu particulier. La pomme de terre est originaire des hauts plateaux andins, et même au départ de la côte du Pérou, alors que le topinambour est originaire d'Amérique du Nord. En fait, on va le découvrir, c'est un Français qui va le découvrir au Canada. C'est Samuel Champlain, qui est le fondateur de la ville de Québec, qui en 1603, lorsqu'il débarque au Canada, découvre ce tubercule que mangent les Amérindiens, les Indiens locaux, et il le juge intéressant. Et il va être ramené, ce topinambour, quelques années après, en Europe, en France, et puis dans le reste de l'Europe. Et il va d'ailleurs être apprécié parce que vraiment, il est très, très adaptable à des sols ingrats. On peut le cultiver partout. Il n'y a pas besoin d'avoir une terre très fertile. C'est une plante qui est également résistante aux maladies, aux ravageurs, etc. Donc, ça va être une plante qui va être jugée très intéressante jusqu'à ce que les Français se décident à manger un autre tubercule, lui aussi issu d'Amérique, la pomme de terre. Et là, la pomme de terre, c'est encore mieux que le topinambour qui présente quelques désagréments et qui est moins nourrissant malgré tout que la pomme de terre. Donc, il va y avoir cette éclipse du topinambour, mais qui en fait a commencé avant la pomme de terre. Les médecins n'aiment pas beaucoup le topinambour quand il arrive en France parce qu'il est, il cause des désagréments digestifs, des flatulences, etc. Et donc, il a quand même pas une, dès le début, une très très bonne presse. Il est pratique à cultiver. On le consomme évidemment quand on n'a pas autre chose à se mettre sous la dent, mais il est clair que dès que la pomme de terre arrive, toute la priorité va être donnée à la pomme de terre.
D'accord. Donc la pomme de terre a officiellement volé la vedette au topinambour. À ce moment-là, on est au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle ?
Début du XIXe, effectivement, où là, vraiment, la pomme de terre qui était déjà cultivée en France dans certaines régions et même consommée, notamment dans les périodes où on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, la pomme de terre va vraiment arriver dans des assiettes de tous les Français. Il aura fallu du temps pour ça, mais à partir du début du 19e, on mange des pommes de terre et le topinambour disparaît jusqu'à réapparaître, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'occupant nazi fait des réquisitions de pommes de terre pour nourrir sa propre population. Et donc, les Français, ne pouvant plus se nourrir de pommes de terre, redécouvrent, mais vraiment par défaut, le topinambour. Et dès que la guerre est terminée, on se redépêche de consommer des pommes de terre.
C'est comme ça qu'on peut expliquer le rapport amour-haine qu'il y a au topinambour, parce qu'à la fois, j'ai le sentiment que dernièrement, on en a beaucoup vanté le goût subtil aussi dans la scène culinaire. On l'a revisité, on a cherché à mettre en avant son goût de fond d'artichaut assez original. Et pour autant, on a aussi en tête les anciennes générations qui vont nous dire « Ah mais non, pourquoi on mangerait volontairement des topinambours alors qu'on n'a pas eu le choix que de le faire pendant tant d'années ?»
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, les anciennes générations, aujourd'hui, sont des personnes âgées. Ce n'est pas la peine de leur parler de topinambour et de rutabaga parce que c'était le choix par défaut quand on n'avait pas de pommes de terre et puis difficile à digérer. En revanche, les jeunes générations n'ont pas connu cette période de guerre et c'est vrai, comme vous le dites, depuis quelques années, des chefs ont voulu réhabiliter cette saveur un peu subtile, ce goût d'artichaut du topinambour, qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque une des caractéristiques du topinambour, c'est de contenir une fibre particulière qu'on appelle l'inuline, qui est donc responsable de cette saveur légèrement sucrée. Et l'inuline, on va la trouver également dans le salsifis, dans l'artichaut. Mais l'inconvénient de l'inuline, en tout cas pour les personnes qui ont les intestins fragiles, c'est évidemment d'accélérer le transit intestinal, de donner des diarrhées, des flatulences, etc. Donc il y a aussi cet inconvénient lié, mais qui est un avantage en termes de goût pour les gens qui peuvent tout à fait supporter sa consommation.
Et alors, j'ai également lu que le topinambour a longtemps été utilisé pour nourrir le bétail. Est-ce que c'est également un fait qui peut justifier l'aversion que certaines personnes ont pour ce tubercule ?
Oui, en tout cas, c'est-à-dire les personnes qui se souviennent de ça, évidemment, vont associer le topinambour à légumes de guerre, légumes de disette, on pourrait dire, et puis nourriture du bétail. Donc ça, évidemment, ça n'aide pas du tout à donner une bonne image de ce tubercule. Et c'est vrai que quand on n'a plus voulu manger de topinambour, on l'a donné aux animaux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, après tout, c'était un tubercule qui était assez facile à cultiver, assez résistant, et donc ça avait quand même cet avantage-là.
Alors, vous nous avez expliqué que les topinambours viennent plutôt d'Amérique du Nord. Comment peut-on expliquer son autre appellation d'artichaut de Jérusalem ?
Alors, on l'appelle également artichaut de Jérusalem. Le goût d'artichaut est très prononcé. Alors là, j'avoue que je ne me souviens pas pourquoi de Jérusalem, parce qu'il me semble que ce sont les Anglais qui l'avaient baptisé comme ça. Donc là, désolé, là il faudra.
D'accord.
Par contre, ce que je peux raconter, c'est que Le topinambour ne s'est pas toujours appelé topinambour. On lui a donné au départ des noms variés comme artichaut du Canada, sa terre d'origine, ou truffe du Canada, ou poire de terre, etc. Et en fait, le nom de topinambour, bon, il lui a été donné assez rapidement, et l'histoire est assez amusante. En fait, les topinambours ont pour leur nom a pour origine une tribu, non pas du Canada, où il a été découvert, mais une tribu d'Amazonie, les Tupinambas. Alors, l'histoire est la suivante, c'est qu'on va fêter l'entrée du jeune roi Louis XIII dans la ville de Rouen, en 1613. Et, comme on le faisait à l'époque, on va exhiber, parce que c'est vraiment le mot qui convient, malheureusement, mais on va exhiber un petit groupe de six Indiens originaires d'Amazonie. Et comme c'est l'époque où commence à arriver sur les étals des topinambours, eh bien on ne sait pas très bien qui, mais probablement un commerçant avisé s'est dit qu'il pouvait donner un nom exotique à ces poires de terre, à ces truffes du Canada. Et donc, il a l'idée de baptiser ces tubercules du nom Tupinambas, mais en fait, on va le transformer, on va le franciser en topinambour. Voilà, donc un peu l'ironie de l'histoire, c'est que le nom de ce légume originaire, encore une fois, d'Amérique du Nord est le nom d'une tribu d'Indiens d'Amérique du Sud. Et donc, c'était plus vendeur de lui donner ce nom exotique que de l'appeler poire de terre ou truffe du Canada.
Est-ce que vous aimez les topinambours à titre personnel ?
Alors, à titre personnel, moi, je trouve que le goût n'est pas mal. Je dois reconnaître que j'ai un peu de mal à le digérer. Et donc, finalement, je ne suis pas un très grand fan de topinambours. Mais bon, dans les légumes oubliés, j'aime bien, par exemple, peut-être aussi parce que je le supporte mieux, mais la saveur est assez douce, un peu aussi comme l'artichaut, le persil tubéreux, hein, qui est aussi c'est du persil, mais dont on va manger les racines, parce que cette racine, là encore, comme le topinambour, la pomme de terre, est tubérisée, c'est-à-dire elle accumule les réserves de la plante, et donc on a quelque chose qui ressemble à une petite carotte courte, et que pour ma part, j'apprécie plus que je supporte mieux finalement que le topinambour.
Oui, vous avez raison, c'est absolument délicieux le persil tubéreux.
Vous connaissez, oui, c'est, moi j'aime beaucoup ça, oui.
Et alors pour en revenir à ce côté pas forcément très digeste des topinambours, donc vous avez dit tout à l'heure que les médecins déjà à l'époque faisaient remarquer ce point, parce que vraiment donc cette histoire d'inuline était quelque chose qui...
On ne savait évidemment pas l'expliquer à l'époque, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais aujourd'hui on l'explique bien. Mais c'est vrai que c'est une particularité, comme je le disais, du topinambour, d'être riche en cette fibre. Hein. Alors comme toute fibre, elle n'est pas, notre organisme ne l'assimile pas, mais elle reste dans les intestins, l'intestin grêle, le côlon, et elle est utile parce qu'elle va servir finalement aux bactéries qui constituent notre microbiote, comme on dit aujourd'hui. Le problème, c'est que les bactéries, lorsqu'elles utilisent en l'occurrence cette fibre, l'inuline, elles vont la transformer, elles vont la métaboliser, comme on dit, elles vont la fermenter, et donc cela va dégager des gaz responsables des fameuses flatulences. L'intérêt, c'est évidemment de nourrir les bactéries de notre microbiote, dont, quand il ne s'agit pas de bactéries pathogènes, évidemment, dont nous avons besoin pour tout un tas de fonctions, de digestion, d'immunité, etc.
Oui, mais c'est amusant de voir à quel point topinambour et flatulence sont associés. Ça fait toujours ricaner quelques personnes quand on en sert à table, parce qu'il y a forcément la blague par rapport aux flatulences, donc qui va arriver un moment.
Et ça, évidemment, ça joue en défaveur du topinambour, mais là encore, les individus ne sont pas tous également sensibles par rapport à cela. Les personnes qui souffrent d'un syndrome du côlon irritable auront évidemment plus de difficultés à supporter les topinambours, alors que d'autres personnes vont les surmonter. Et d'ailleurs, pendant la guerre, de manière humoristique, les gens appelaient les topinambours les pétains. Nos concitoyens avaient quand même le sens de l'humour, même en période difficile.
« Après notre entretien, j'ai fait quelques recherches pour savoir pourquoi on appelait également les topinambours les artichauts de Jérusalem. Tout part du nom italien du topinambour, girasole, qui veut dire tournesol, puisque, comme nous l'a indiqué Éric Birloez, les fleurs de topinambour ressemblent aux fleurs de tournesol. Girasole s'est progressivement transformé en Jérusalem, et la référence à l'artichaut, elle, s'explique par la similitude des goûts des deux produits. Je suis ensuite allée aux Eaux de Mars, un bistrot de quartier que j'adore, à Marseille. Les Eaux de Mars est tenu par Noémie et Arthur, deux anciens colocataires devenus amis avant d'ouvrir ce resto ensemble il y a à peine un an. Un vrai bistrot convivial fréquenté par des gens du quartier, de 7 à 77 ans. Aux Eaux de Mars, ce que j'aime, c'est la cuisine inventive de Noémie, qui cuisine tous les jours des plats généreux en saveur, à partir de légumes du coin. Noémie sublime tout, avec sa pâte et sa façon de chercher à tout prix l'astuce, le petit truc qui va réveiller les assiettes. J'ai envie de croire que c'est parce que, avant de se lancer dans un CAP cuisine, Noémie faisait des études d'art et avait déjà probablement cet esprit créatif. Noémie fait honneur à tous les bijoux de la nature, y compris ces tubercules parfois mal aimés que sont les topinambours.
Le topinambour, quand on pousse un peu la cuisson, il part un peu sur le sucré aussi. Il a des notes d'artichaut, mais un peu caramélisées. Donc c'est assez intéressant.
Et donc quel goût ça a, selon toi, si tu devais le décrire à quelqu'un qui n'a jamais goûté? Donc tu parles, oui, de ces petites notes artichaut, un peu noisette aussi, certaines personnes disent ça.
Ouais, noisette, amande en cru aussi, c'est intéressant. Parce que le topinambour, on peut le cuire, mais on peut aussi le manger cru, très très fin, à la mandoline, ça passe super bien. Et là, c'est plus des notes d'amande douce. Ouais, c'est un peu complexe.
Alors, on est d'accord, on peut éplucher le topinambour s'il a une peau épaisse et qu'on veut s'en débarrasser. On peut aussi le cuire avant pour faciliter l'épluchage, mais on peut aussi ne pas l'éplucher du tout, c'est bien ça?
De façon générale, dès que je peux me passer déjà pour des questions de productivité de l'épluchage d'un légume, je le fais systématiquement. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus intéressant nutritivement. La peau quand même contient a priori le plus de vitamines, donc c'est intéressant. Et puis en plus topinambour c'est quand même relativement chiant épluché, donc moi je l'aime bien juste rôti comme ça. Quand on le nettoie bien avec une petite brosse à légumes, on enlève toute la terre, on le met à rôtir brut avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, et c'est top quoi. Enfin franchement c'est super bon.
Avec quoi ça va bien le topinambour comme goût?
Ben, je parlais de la clémentine tout à l'heure, de la grume. Ça se marie assez bien. Une note un peu acidité, parce que c'est un peu rond, c'est doux, c'est un peu sucré. Donc, je dirais que la grume, quoi, c'est intéressant. Ça révèle bien le goût.
Et dans beaucoup de recettes, on le trouve associé à des champignons aussi.
C'est vrai, ouais. Je pense que oui, c'est vrai que c'est le côté forestier. Enfin, ça amène. En tout cas, je pense que aussi c'est un légume qui arrive sur la période automnale. Donc, naturellement, je pense que c'est des légumes qui vont bien ensemble pour des questions de saisonnalité, quoi.
Oui, les fameuses associations un peu temporelles, quoi. Enfin, de saison, comme tu dis. Beaucoup de gens s'inquiètent de savoir comment ils peuvent en manger sans trop péter. Est-ce que, Noémie, tu peux nous aider sur cette question?
Alors, je n'ai pas la solution exacte, mais je sais qu'en tout cas, il y a une histoire de récolte aussi. C'est plus ils sont vieux et plus ils peuvent faire péter. Et donc, il faut une certaine fraîcheur dans le produit. Enfin, je le recommanderais de toute façon, évidemment, pour n'importe quel légume. Mais d'autant plus pour le topinambour. Et en plus, pendant la cuisson, je sais que déjà plus on le chauffe et plus on le réchauffe, plus il a tendance à justement révéler ses problèmes de digestion. Et donc il y aurait des petites combines comme mettre de la sarriette ou des épices telles que le fenouil pendant la cuisson, dans l'eau de cuisson. Voilà.
Ça, du coup, ça permettrait de diminuer les potentialités de flatulence après coup. J'ai même vu des gens parler de cuire ça avec du bicarbonate de soude. Mais...
Oui, de façon générale, c'est comme le chou, les choses comme ça. Donc pour rendre plus digeste, on met une pointe de bicarbonate de soude. J'ai jamais essayé, mais ça vaut le coup. Ouais.
Tu m'as parlé aussi de l'usage des topinambours dans les desserts. Comment on peut s'y prendre et comment on peut faire exactement ?
Alors, sincèrement, je ne l'ai jamais fait. En revanche, je serais très curieuse de tester. Je pense qu'on peut imaginer plein de desserts. Il y a plein de chefs qui le font, d'ailleurs. Je pensais tout à l'heure à une idée de tarte à thym, justement, avec peut-être des écorces de clémentine, pour bien révéler le côté caramélisé du topinambour, son côté sucré. Je pense que ça va pouvoir se faire. D'ailleurs, je pense que je le testerai.
Et donc oui, tu nous as parlé de plusieurs façons d'accommoder le topinambour. C'est quoi ta façon préférée de l'accommoder, toi, de cuisiner ce légume ?
Bah, je parlais de le rôtir, tout simplement. J'aime bien le côté brut, parfois, d'un ingrédient où il n'y a pas forcément besoin. Enfin, son goût est déjà fabuleux comme ça. Je l'aime bien en purée. Enfin, c'est un légume qui est assez inspirant. Enfin, en tout cas, qui se révèle de plein de façons différentes. Moi, je l'aime un peu de toutes les façons, en fait.
Moi, ce que j'aime bien avec ce légume aussi, c'est que comme il y a mine de rien beaucoup de personnes qui n'osent pas forcément le cuisiner ou en acheter. Enfin, parfois les gens voient ça sur les étals, ils se disent bon, ben ça m'a l'air plus compliqué qu'une courgette ou une aubergine. Donc, je trouve que c'est un peu un moyen de surprendre dans une assiette, de même comme tu disais quoi, tout simplement couper très finement et un peu rapidement. Revenu dans une poêle avec un peu de beurre. Enfin, parfois, les gens, tu mets juste ça un tout petit peu sur de la pomme de terre, ils disent, mais c'est quoi, en fait, ce truc qui ajoute tant de goût? C'est assez subtil.
Ouais, c'est vrai. Surtout que je parlais de la méfiance du topinambour. Les gens le sont beaucoup. Moi, j'aime bien m'amuser souvent dans les assiettes. J'écris pas toujours tous les ingrédients parce que ça effraie et les gens, des fois, ça les rebute de prendre certains plats parce qu'ils se font l'idée d'un aliment. Et c'est vrai que le topinambour, j'ai entendu des gens dire l'année dernière, notamment avec ce fameux parmentier, j'ai toujours détesté le topinambour, mais là en parmentier c'est hyper intéressant. Enfin, il y a des gens qui ont redécouvert ce légume quoi, avec une façon de faire qui est différente. Ouais. Donc
t'avais pas mis à la carte, enfin t'avais pas visibilisé l'ingrédient alors dans le plat sur la carte.
Bah après les dénominations des plats, en général il y a plein d'ingrédients et donc les gens en fait la première chose qu'ils voient c'est ils lisent parmentier, donc ils ont leur idée du parmentier, ils voient boudin noir et c'est ce qu'ils retiennent, mais parfois ils zappent un peu la fin où c'est écrit topinambour.
Faudra envoyer les enfants en fait manger ici chez toi pour qu'ils soient surpris dans chaque assiette par un petit truc. Oui, parce que parlons un peu des assiettes aussi que vous servez ici. Elles sont très généreuses. À chaque fois, il se passe plein de trucs, je trouve. Déjà dans les textures, mais aussi dans les ingrédients. Il y a à chaque fois beaucoup d'ingrédients. Enfin, il y a un truc, mais pas non plus de façon accessoire quoi. C'est pas genre tiens, on va râper un petit truc de machin histoire de dire. Je trouve que tout a un peu sa fonction et que réellement on s'ennuie pas quand on découvre tes assiettes.
Bah c'est gentil. Enfin, on est trois en cuisine, on prépare plein de choses et on fait une sorte de mise en place un peu avec tous les ingrédients qu'on a, les ingrédients que le maraîcher nous ramène. Donc après on s'amuse, on le décline. Donc c'est comme si j'avais plein de petites boîtes. Enfin, c'est plein de petites boîtes et je m'amuse avec. Alors après, chaque assiette ne se ressemble pas. Tu disais tout à l'heure qu'il y a plein de détails, mais parfois, selon le temps que j'ai ou l'intuition que j'ai sur le moment, ça se ressemble pas. Des fois, ça marche pas aussi. mais je m'amuse avec toutes mes petites préparations. J'assemble et j'écris pas tout d'ailleurs. Ce que je disais tout à l'heure.
Tu sais pas forcément à l'avance ce que tu vas faire exactement. Tu prépares d'abord les ingrédients, comme des palettes de couleurs, et après tu t'improvises.
Ouais. Tout n'est pas de l'improvisation, ça serait mentir que de dire ça, mais en tout cas, ça fait partie intégrante de ma façon d'envisager la carte, quoi. Je me laisse cette liberté aussi d'improviser sur le moment. Parfois, à 10h, je connais pas encore mon menu. Des fois, c'est intéressant, des fois ça marche pas, ce que je disais. Mais j'aime bien travailler comme ça. Enfin, en tout cas, on aime bien dans la cuisine là, avec Alexia. On est deux à avoir cette démarche un peu intuitive et créative en fonction de ce qu'on a. Le matin, on arrive et on décide ensemble ce qu'on va faire.
Il y a un point que j'aime beaucoup avec les topinambours, c'est qu'ils sont résistants et qu'ils arrivent à pousser presque n'importe où, en dépit du froid. En Suisse, par exemple, les topinambours sont même une plante invasive qui a participé à l'érosion des bords des cours d'eau en hiver. L'histoire de ce petit tubercule semble être à l'image de sa matérialité, une apparence un peu rustre, renfermant une chair douce au goût délicat. Merci à Éric Birloez et à Noémie Lebossé de m'avoir donné de leur temps pour parler de topinambours. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Charline Yao. Montage par Marine Rowe, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.